RMC. L'After Rugby. Christophe Cessieux.
L'After Rugby jusqu'à minuit après la fin de cette Coupe du Monde qui va donc repartir pour 4 années supplémentaires en Afrique du Sud jusqu'à la prochaine édition qui aura lieu dans 4 ans en Australie. Voilà l'hémisphère sud évidemment qui continue de dominer la planète rugby avec un 9e titre en 10 éditions. C'est dire quand même si cette domination est importante. On est toujours avec Jean-Claude Strella et Yann Deleg en direct de notre studio RMC Place de la Concorde avec Denis qui commence à bailler.
Ouais, non, non, pas.
Non, c'est pas.
Il est nostalgique déjà, Denis.
Ah, il est déjà dans le top 14, il est déjà demain, quoi.
Non, mais c'était bien, c'est sympa. Après, on n'était pas aussi survoltés que si ça avait été la France,
bien sûr. Évidemment, ça restera le grand regret de cette Coupe du Monde, mais on va pas revenir sur ce qui s'est passé, on l'a déjà analysé, on va plutôt se pencher sur l'avenir. Déjà, il y a cette petite polémique en train de naître, et je vais m'adresser à l'ancien sélectionneur que tu es, Jean-Claude. Toi aussi, tu as connu la défaite, bon, c'était en finale, en 99, Fabien l'a connu en quart de finale, ça fait 15 jours, il ne s'est pas encore exprimé. Est-ce que c'est de son devoir de venir aujourd'hui s'exprimer devant les médias, devant les fans du 15 de France, de venir dire, expliquer son ressenti et peut-être donner des explications à cette défaite? Est-ce que tu penses qu'il est temps ou qu'il doit encore patienter?
Je pense qu'il faut qu'ils fassent le bilan, de ce qui s'est passé, autant sur le plan physique que sur le plan du jeu, sur le plan des joueurs. Moi, je me pose une grande question. Comment se fait-il qu'on a eu autant de blessés, quoi? C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure, les finisseurs, ils étaient à l'infirmerie, donc c'était plus compliqué. Après, qu'ils viennent présenter le bilan à tout le peuple du rugby, je pense que ce serait tout à fait normal. Maintenant, il y a une nouvelle gouvernance, il va se passer plein d'autres choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je ne connais pas, moi, personnellement, le fonctionnement qu'ils vont mettre en place, puisqu'il y a un nouveau responsable du haut niveau qui s'appelle Jean-Marc Lhermé, il y a un nouveau président. J'attends et je serais bien content d'entendre les réponses de ce qui va se passer demain autour du 15 de France. Si on doit réduire le fonctionnement, le budget de l'équipe de France, ce serait dommageable pour cette équipe-là, mais pour toutes les autres équipes de France, parce qu'aujourd'hui, bon, même si elle a perdu, il y a l'équipe de France féminine qui est en train de faire un tournoi en Australie. Moi, tout ça, c'est les moyens. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens sportifs. Quelle négociation on va avoir avec la Ligue de rugby? Est-ce qu'on aura toujours 33 joueurs ou 45 joueurs pour préparer les matchs? Toutes ces questions, il faudra que Fabien vienne y répondre. Mais va passer par des négociations importantes.
Quand même. Je ne suis pas sûr que Fabien fasse un retour sur la Coupe du Monde qu'on vient de vivre. Autant je pense qu'il va parler effectivement de l'après, de ses ambitions pour le prochain tournoi.
C'est pas de son devoir de sélectionneur à qui on a donné quand même carte blanche, des moyens incroyables de venir quand même. Alors il y a eu la conférence de presse après la défaite en quart de finale, mais vous n'avez pas envie de l'entendre aujourd'hui?
Ouais, mais en même temps, tu veux qu'il nous explique quoi? Enfin, il n'y a pas grand chose à expliquer.
Toute la presse a plein de questions à poser à Fabien Galthié en bilan de cette Coupe du Monde, en fait. Donc je pense qu'on le reverra pas avant le début du tournoi. Il l'avait fait après le Grand Chelem, hein. Il avait débriefé ça. Donc,
mais après le Grand Chelem, c'était avant la Coupe du Monde. Il y avait quand même. La mission n'était pas terminée. La mission, c'était la finale de la Coupe du Monde qu'on n'est pas arrivé à avoir. Mais...
Oui. Oui, mais c'est un peu sur cette Coupe du Monde, sur les choix. Mais après, ça va être un moment, ça va être trop tard, hein, parce que revenir sur le match d'Afrique du Sud, les choix, le banc, un truc comme ça.
Non, mais il fallait le faire, je pense. Sur le bilan global, Jean-Claude parlait de la préparation physique.
Oui.
On a blessé quand même pas mal de joueurs. On a été prêts pour le match ouverture, mais pas pour le quart de finale. Il y a quand même.
On a été trop prêts, oui. C'est des questions qu'il faut.
Ah oui.
On attend des réponses, effectivement, mais je pense que. C'est son devoir, tu le dis, Christophe. Je pense qu'il a quand même un devoir de venir devant la presse. Mais je pense que, je ne suis pas comme vous, je pense qu'il va le faire. je pense qu'il va le faire.
Ouais. Moi aussi,
sur les médias,
je souhaite qu'il le fasse.
Sur, voilà, je pense qu'il va, il va le faire, oui. Il n'y a pas de raison.
Ouais. Ouais, moi, je pense qu'il va parler de l'avenir, qu'effectivement, il va faire un petit aparté sur, bah, sur la Coupe du Monde qu'on vient de vivre, mais ça sera plutôt très rapide et qu'il va dire on se penche sur l'après, parce que c'est l'après qui est important, il me semble.
Oui, mais on peut lui en parler, il y en a, on peut dire alors, les joueurs,
ah ouais, c'est même le rôle de journaliste.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui, sur un cycle de 4 ans, bah, pourront peut-être ne pas repartir avec cette équipe de France pour 30 ans? Voilà, il y a des questions qui se posent.
Il y a tous les jeunes moins de 20 ans qui ont été champions du monde, quels sont ceux qui vont.
Là, ouais, mais ça, c'est l'avenir, voilà, c'est ça.
C'est tout ça, mais c'est tout ça qu'il a à venir. Si on veut préparer la prochaine Coupe du Monde, il faut. On n'a pas gagné celle-ci alors qu'on pensait tous qu'on la gagnerait. Je crois que c'est déjà demain, quoi. Les 4 ans, c'est déjà demain. Ah, oui, donc, il n'y a pas de temps à perdre.
Hein. Ah, exactement, pas de temps à perdre parce qu'il y a ce tournoi à préparer. Le premier match, on le rappelle, ce sera à Marseille face à l'Irlande.
Exactement.
Hein. Les deux grands blessés de la Coupe du Monde qui vont s'arrêter.
Ah oui. Les deux têtes malades là.
Au Vélodrome. Donc
parce que les Irlandais, nous on avait les. Ah, mais les Irlandais, ah bah eux, c'était la nuit. Ah, pour eux, elle était pour elle.
Oui, pour eux. Parce que la génération derrière est peut-être un peu moins talentueuse que
celle qui arrive. Sexton, justement, et c'est vrai que eux, ça a été dur.
Messieurs, je vais vous remercier dans un instant. On va juste aller faire un dernier tour au Mexique parce que c'est la fin de la Q3. Donc on va connaître la pole position pour le Grand Prix du Mexique de Formule 1 dans un instant, Jean-Luc.
Eh oui, dans un instant, effectivement, Christophe, pour le moment, c'est Charles Leclerc qui est au commandement en ayant réalisé un chrono d'une 1766. Ça veut dire que Charles réitérerait la pole qu'il avait signée à Austin la semaine dernière. Il est devant son équipier Carlos Sainz. Et j'ai regardé la dernière première ligne complète des Ferrari pour monter à Monaco en 2022. Donc ça remontera pas mal de temps. Mais attention à Verstappen. Verstappen qui vient de signer un excellent chrono dans le deuxième secteur. Il est peut-être en capacité de faire un tour supplémentaire. Je regarde. On a également George Russell avec la Mercedes qui lui est pour le moment 7e en amélioration dans le deuxième secteur. C'est le cas également de Lewis Hamilton. Il faut savoir que les deux Mercedes sont actuellement 7e et 8e respectivement pour Russell et Hamilton. Bottas est 9e et Zhou restera a priori 10e et dernier. J'aperçois maintenant, on est dans la dernière seconde. Voilà, il en a terminé Russell. Il restera au 7e rang. Lewis Hamilton passe maintenant la ligne. Il grimpe au 6e rang et je peux confirmer la pole position de Charles Leclerc. Superbe pole position, la 22e de sa carrière de pilote de Formule 1. Ça le met exactement au niveau de Fernando Alonso. Deuxième pole position consécutive pour Charles, 4e de la saison 2023. Et bien la première ligne sur la grille de départ de ce Grand Prix de Mexico sera entièrement rouge. Deuxième ligne avec Verstappen et l'étonnant Daniel Ricciardo avec l'AlphaTauri. Troisième ligne avec Sergio Pérez, le régional de l'étape, le mexicain Lewis Hamilton. Quatrième ligne, Piastri, le jeune pilote australien de McLaren avec Russell à ses côtés. Et puis Bottas et Zhou, je rappelle que Pierre Gasly est 11e et Esteban Ocon 16e.
Merci Jean-Luc.
Jean-Luc. Je vais partir il y a 5 minutes, merci.
Tu as tout, Denis. Tu as tout.
Fais plus long la prochaine fois. Regarde-toi. Quel ronchis les yeux. Non, il est minuit. Tu crois que je vais faire quoi maintenant,
Denis? C'est le moment des
clés. Tu vas regarder le Grand Prix demain.
C'est le moment des câlins, c'est la fin de la Coupe du Monde. On a passé un bon mois et demi ensemble quand même.
Super. On s'est régalé. Bon, la France n'est pas championne du monde, mais on aura vécu une belle compétition. Avec vous, Yann, Jean-Claude, Denis évidemment,
merci, Wilfried, messieurs.
Julien Landry,
merci.
Winnie Carré, Bruno Fontaine.
Merci, salut Yann, salut Jean-Claude.
Merci à tous.
Il paraît que vous enflammez la fan zone après Jean-Claude et Yann.
On va l'enfermer là, parce qu'avec ceux qui tombent, il y a un moment.